Chapitre 71. Dans sa rue, depuis le trottoir d'en face, j'observe son immeuble. Je découvre un peu de son quotidien, même si j'ignore à quel étage il loge, ou si ses fenêtres donnent de ce côté-ci ou sur la cour arrière. Cette fois, je suis consciente que mon cœur bat assez vite pour griller un électrocardiogramme. J'enregistre aussi chaque détail avec une précision décuplée. Comme si, à défaut de le connaître, j'étais avide d'apprendre par cœur tout ce qui le concerne. Apprendre par cœur. L'expression prend ici tout son sens. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi me suis-je précipitée sans hésiter dès l'instant où j'ai su l'adresse de Mathieu? Je ne peux même pas aller sonner chez lui. J'en suis réduite à l'attendre. Un détail me chagrine. Alors que la matinée s'annonçait ensoleillée lorsque j'ai quitté Florence et Raphaël, le temps ne cesse de se couvrir depuis. Les nuages s'accumulent. Est-ce encore un message venu de là-haut? Dois-je y lire un présage de ce qui me pend au nez? Voilà déjà plus d'une heure que j'arpente les parages sans perdre sa porte de vue, scrutant chaque passant dans un flux qui se densifie à mesure que la matinée avance. Je me fais la plus discrète possible, me méfiant des ombres qui glissent derrière les fenêtres. Je dois à tout prix éviter qu'il ne me repère. Je varie les angles afin de couvrir tous les axes, prête à réagir lorsqu'il se montrera. Je suis comme un reporter animalier, en planque près d'une tanière, espérant apercevoir le grand puma qui y réside. Peut-être est-il déjà à l'intérieur, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il finira par passer par là. C'est son point d'eau. Tous les spécialistes vous le confirmeront. Le spectacle d'une nature farouche et sauvage exige de la patience. Selon un cycle étonnamment régulier, j'en arrive environ toutes les 10 minutes à me trouver ridicule des pieds ainsi. Ridicule, voire pathétique. Après tout, je ne vaux pas mieux que Tristan et ses petites embuscades pour coincer ses amourettes. Même si nos motivations sont différentes, l'honnêteté me pousse à accepter la comparaison. De leur côté, mauvaise conscience et raison s'allient pour m'inciter à rentrer chez moi. Me ressaisir et faire preuve de responsabilité me permettrait d'assumer enfin ce que je délaisse depuis que je passe mon temps à traquer Mathieu. Une force plus puissante encore que toutes les autres réunies m'ordonne cependant de rester. Tout mon être me dicte de me cramponner au peu que je sais de lui. Un nom, une adresse et une envie désespérée de le revoir. Car en dépit de l'inconfort de ma situation, il n'existe pas un seul endroit au monde où je préférerais me retrouver à cette minute. Pas une pensée ne pourrait me distraire de celle que Mathieu éveille en moi. J'aime penser à cet homme. Rôder autour de son lieu de vie, c'est déjà me rapprocher de lui. Et bien qu'incapable de justifier rationnellement cela, je ne désire rien d'autre. Alors je marche, et je marche encore, en faisant bien plus que les 100 pas autour de la tanière du fauve. Je collecte aussi des informations. Entre 9h37, heure de mon arrivée, et maintenant, soit près d'une heure plus tard, 9 personnes sont sorties de son immeuble, dont une jeune femme avec un bébé dans les bras. Celle-là m'a posé un vrai problème. Très belle, à l'évidence à l'aise avec son enfant. Féminité et maternité superbement assumées. C'est bien ma chance. Je n'ai eu aucun mal à l'imaginer en couple avec Mathieu. Pour la première fois de ma vie, j'ai été jalouse de quelqu'un. Alors que d'habitude, je me suis toujours demandé si les hommes que je fréquentais feraient de bons pères, ce matin, c'est sur ma propre aptitude à devenir une compagne acceptable que je m'interroge. Pourrais-je rivaliser avec celle que je dissèque du regard, tandis qu'elle s'éloigne? J'ai des doutes. Ça ne m'arrangerait pas qu'on nous compare. J'ai bien envisagé de la kidnapper, de l'évincer, mais ces pensées ne m'ont cette fois ni amusée ni soulagée. On a toujours plus de mal à plaisanter avec ce qui nous effraie réellement. Je pense que finalement, si je découvre que Mathieu est en couple avec cette impressionnante jeune mère, le plus simple sera encore pour moi d'être malheureuse à en mourir. Je l'imagine facilement avec des enfants, parce qu'il sait s'occuper des autres et que, pendant ses cours, je lui ai souvent vu ce petit sourire quand nous réussissions à nous dépasser. Il sait repérer et encourager les êtres qui tentent. Par contre, je n'arrive absolument pas à deviner le métier qui pourrait être le sien. Sportif, il l'est assurément, mais de là à être un coach professionnel, rien n'est moins sûr. Sa façon d'animer avait un côté frais, inventif, presque improvisé, loin des routines mécaniques de ceux qui pratiquent à l'année. Je l'imagine dans plusieurs costumes, pour évaluer ce que ça pourrait rendre. Peintre en bâtiment? Kiné? Enseignant? Marin-pêcheur? N'importe quel métier qui bouge pourrait lui convenir. Les heures passent, et je connais à présent les environs de son appartement comme ma poche. Je suis épuisée d'être constamment sur le qui-vive. Plus jamais je ne prétendrai que les suricates se la coulent douce lorsqu'ils patientent debout pendant des plombes en surveillant les alentours. De temps en temps, je m'accorde une pause en m'asseyant sous l'abribus le plus proche. Pour le moment, je stationne devant la vitrine d'un chausseur. C'est la troisième fois que je m'y intéresse. Je peux désormais réciter le prix de toutes les paires de la nouvelle collection printemps-été, sans toutefois jamais lâcher le reflet de la porte de son immeuble dans la vitre. Les mêmes questions tournent en boucle. Mathieu est-il chez lui? Est-il sorti? Pourquoi serait-il sorti? À quelle heure va-t-il revenir? Va-t-il revenir? L'heure du repas pourrait constituer une excellente raison de le pousser hors de son repère. Le puma sortira peut-être pour aller chasser sa pitance. Cette possible échéance me redonne du courage. Le ciel s'alourdit toujours davantage, dans une parfaite métaphore de la pression qui pèse de plus en plus sur moi. Questions et hypothèses s'accumulent, tels des nuages noirs assombrissant sans cesse mon horizon. D'où tombera la foudre? Souvent, je divague, rêvant à éveiller que je l'aperçois. J'avance vers lui en me retenant de courir, pour le croiser, comme si le hasard était seul responsable. Quels seraient alors mes premiers mots? En fait, ce sont surtout des questions que j'aimerais lui poser. Le plus efficace serait de lui proposer un questionnaire. « Bonjour, monsieur Ferrel, c'est pour un sondage. » Puis je lui tendrai un porte-bloc avec un stylo et une feuille à remplir. « Êtes-vous célibataire? Si oui, passez à la question numéro 2. Par contre, si vous êtes en couple, rendez-moi mon bic et laissez-moi pleurer. » Question numéro 2. Classez ces différents loisirs par ordre de préférence. Jouer à des jeux vidéo puérils. Manger des aliments qui colorent la langue et les dents. Tricoter des déguisements pour chat. Rester des heures à me regarder en me répétant inlassablement que je suis belle et que vous n'êtes rien sans moi. J'ai bien peur qu'il ne me faille trouver une autre approche. Puis-je lui avouer directement que je l'aime? Hors de question. Ce serait stupide et ce n'est d'ailleurs pas vrai. Enfin, je ne crois pas. Comment pourrait-on aimer quelqu'un que l'on connaît si peu? À moins que notre instinct ne puisse sentir ce que notre esprit ne comprendra que bien plus tard. Cela ne me dit pas comment m'adresser au puma sans qu'il se sauve. Je sais. Je vais acheter un quartier de bœuf et je lui en jetterai des morceaux. Ainsi, il ne s'enfuira pas et avec le temps, il se laissera caresser. J'en étais à me demander où se trouvait la boucherie la plus proche lorsque parmi les badauds, tout à coup, il a surgi juste devant moi. Point positif. Je n'ai pas eu à jouer la surprise. Point négatif. Je ne suis pas prête du tout. 3 heures que je le guette, et il a quand même réussi à me surprendre. Sale bête.